gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Canu dans La Causerie avec ce soir autour de la table Jean-Yves.
Bonsoir.
Et Fab.
Salut.
Et Stan.
Bonsoir.
Et à la technique, la merveilleuse Clara.
Coucou.
Et Jonathan à l'ouverture.
Eh ouais, c'est moi. Et bien sûr, donc vous êtes dans La Causerie, 102.2 sur les ondes, mais aussi vous pouvez nous écouter sur radiocanu.org. Et puis si jamais vous voulez nous contacter, hein, on ne sait pas, vous pouvez nous envoyer des mails à
La Causerie Canu, tout attaché. Alors vous ne mettez pas tout attaché derrière, hein. C'est La Causerie Canu. Oh, ça va. @gmail.com, pardon.
Et éventuellement, si vous voulez retrouver notre superbe blog où vous aurez toutes nos émissions, c'est
blogs.radiocanu.org/lacauserie, donc blog avec un S au début. Ou alors vous allez sur radiocanu.org, les blogs des émissions, et vous cherchez La Causerie, on est dedans. Voilà.
Et évidemment, vous pouvez nous retrouver sur un petit réseau social bleu, ouais, et blanc, mais c'est pas l'OM.
On va essayer de trouver un truc à chaque fois, ça va être compliqué à force. Hein.
Joli.
Et ce soir, on commence par...
Bon, avant, on va peut-être ouvrir un petit peu quand même sur soirée d'élection oblige, on peut passer à côté. Donc, moi j'ai juste un truc à dire, 2/3 des Français, a priori, on kiffe le libéralisme, l'autorité, l'homophobie, le racisme, donc on continuera à faire cette émission pour le tiers qui reste. Voilà. C'est pas mal, non? Voilà.
C'est pas mal.
Moi, j'aimerais préciser quand même que ce n'est pas forcément avoir une conscience politique développée de la haine. Voilà.
C'est vrai. Voilà. Bon, bah, résultat. Et pour ceux qui n'ont pas encore allumé leur télé et qui n'écoutent que La Causerie, a priori, en tête, un banquier.
Un ancien banquier.
Et une avocate.
Et en deuxième, une avocate. Voilà.
C'est ça. Alors, vu que La Causerie, on voulait vraiment pas faire que ça, parce qu'on s'est dit, tiens, tout le monde en a plein le dos de toutes ces élections, et on s'est dit, ce soir, on va pas faire un truc spécial élection. Donc, ce sera une causerie habituelle après cette petite taquinerie sur les élections. Et ben, c'est Stan qui ouvre cette causerie et qui va.
Tu veux nous parler des élections, quoi.
je commence quand même par les élections.
Ouais, mais pas dans la notion de parti, etc. Non. C'est dans la notion du temps et voilà, de ce comptage du temps, tout ça.
Tout à fait. Je vais en parler du temps de parole des partis, non pas des candidats, parce qu'on parle vraiment des partis, du temps de parole et tout ce qui s'est passé donc depuis le 1er février et jusqu'à la fin du deuxième tour. Voilà. Donc le temps de parole, donc c'est sous l'égide du CSA. Le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui est le protecteur. Alors ça, c'est lui-même qui s'indique comme ça, le protecteur du pluralisme médiatique. C'est-à-dire qu'il garantit, enfin, il permet de garantir aux citoyens une information politique diversifiée afin de lui permettre de faire ses choix dans des conditions optimales. Voilà. Le CSA, pour ces élections, parce qu'ils font pas que ça, hein, toute la vie, hein, ils font pas ça, ils font pas rien pendant 5 ans, puis d'un coup ils se réveillent. Non, ils surveillent d'ailleurs même du point de vue politique, ils surveillent tout le long aussi, parce qu'il faut pas y avoir d'abus, etc. Mais pour la partie des élections, c'est beaucoup plus important. Et ils contrôlent uniquement la télévision et la radio. Donc ils laissent libre complètement la presse écrite. et Internet, enfin, tout ce qui est Internet. Les petites notions qui sont intéressantes à noter quand même, c'est qu'il laisse libre aussi une télévision qui a un site Internet et qui fera un documentaire qu'il ne mettrait que sur le site Internet.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est si c'est sur Internet, ce n'est pas pris en compte par le CSA. Voilà. Donc, il y a une liste de chaînes et de radios qui sont clairement indiquées sur le site de CSA. Je voulais gagner quelques secondes en les citant pas, mais il y a 14 chaînes télé et une dizaine de radios. Il y a eu des gros changements en 2016 sur l'assouplissement de la règle d'équité du temps de parole, et avec un changement dans les dates du découpage des élections, mais je vais en revenir plus en détail, vu que c'est un petit peu ce qui m'importe ce soir. Les élections présidentielles se divisent en trois temps. Il y a le premier temps, qui est la période préliminaire, qui est du 1er février jusqu'au 19 mars. Donc le 19 mars, c'est la date finale des dépôts de candidature. Donc là, on a un principe d'équité complètement abstrait, c'est-à-dire qu'on s'en fout un peu. Mmh. Le CSA fait un petit peu attention qu'il n'y ait pas d'abus. Mmh. Donc, globalement.
On peut constater que ce n'est pas le cas, réellement.
Oui, après, c'est leur manière de considérer qu'il n'y a pas d'abus.
Oui, c'est ça.
Chacun a sa manière de voir les choses. Après, il y a la période intermédiaire, qui là, on rentre quand même un peu plus dans le vif du sujet. Les candidats viennent de poser leur candidature. Et c'est donc du 19 mars au 9 avril, c'est-à-dire 15 jours avant le premier tour des élections. Donc là, on est sur la règle d'équité. Et c'est cette règle-là qui a été modifiée, donc j'en parlerai après. Donc la règle d'équité modifiée. Et puis, il y a la campagne officielle, parce que la campagne officiellement démarre le 10 avril, c'est-à-dire 15 jours avant les élections, avant le premier tour, donc du 10 avril au 5 mai, c'est-à-dire deuxième tour des élections. Et là, on a la règle de l'égalité stricte. Donc je vais tout de suite parler de la règle de l'égalité stricte, parce qu'elle est beaucoup plus facile à aborder. Là, pour le coup, c'est que sur les 15 chaînes télé et sur les 10 radios qui sont surveillées par le CSA, il y a une égalité, et une égalité très très stricte, c'est-à-dire que les chaînes doivent respecter l'égalité totale du temps de parole et du temps d'antenne des candidats et de leur soutien. C'est important aussi, parce que c'est le parti, c'est la représentation d'une partie. Quel que soit leur poids politique, aux conditions de programme comparables. J'en parlerai aussi un petit peu après. Bref, dans l'idée, tout le monde doit parler autant et doit être représenté de manière autant. Petite indication quand même, sur cette période-là, on est vraiment sur... c'est préféré sur des soutiens déclarés par le parti. Voilà. Cette petite notion ne revient pas dans la période intermédiaire. Tu peux être un soutien non déclaré par le parti. Voilà. Donc, on arrive sur la règle de l'équité. Donc, la règle de l'équité, je rappelle juste, c'est sur la période intermédiaire, donc du 19 mars au 9 avril. Celle qui a fait le plus de bruit quasiment sur ces élections-là. Les émissions, les émissions de télé, radio, enfin les chaînes télé, doivent respecter le traitement médiatique des 10 candidats, c'est-à-dire qu'elles doivent tenir compte de la représentativité de chaque parti en offrant aux candidats une présence à l'antenne, équitable. Alors maintenant, le vrai dilemme du CSA, c'est comment est-ce qu'on estime la représentativité de chaque parti ? Parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça se fait. Ils ont fait un truc un peu chiadé pour dire « Hey !»
Parce qu'on rappelle que l'équité n'est pas l'égalité.
Non, l'équité n'a rien à voir avec l'égalité. Donc, le CSA regarde plein d'éléments, dont certains qui sont très surprenants, je trouve. Le nombre d'élus du parti du candidat dans les institutions. Les résultats aux élections précédentes, pas uniquement présidentielles. Tout ce qui est meeting, déplacement de terrain, participation à des débats, à l'activité sur les réseaux sociaux, ça fait des buzz, etc. En fait, en gros, dès qu'il y a un événement un petit peu important, on peut se dire, le CSA peut dire, oui, vous pouvez en parler parce que ça vaut le coup. C'est le CSA qui décide en fait si ça vaut le coup ou pas. C'est regardé par comment, en fait, comme je disais, on regarde pas uniquement que le candidat, on regarde les soutiens identifiés ou non par le parti, c'est-à-dire que si... personne X d'une émission de radio complètement, enfin écoutée par le CSA, mais qui n'est pas du tout des... Enfin, on ne savait pas du tout qui était partisan de ça, se met à en parler, c'est un soutien. Donc c'est comptabilisé comme un soutien au parti. On analyse tous les sujets, bien entendu, hein, les chroniques, les débats, les revues de presse, les commentaires, tout ça, tout ça. Sauf dans les cas de propos explicitement défavorables. Là, quand c'est vraiment critique d'un parti ou du candidat, bon ben là, on s'en fout, c'est pas pris en compte. Voilà. Mais surtout, et ça c'est aussi une des données qui a changé et qui change vraiment beaucoup la donne par rapport aux élections précédentes et à la vérification du CSA jusqu'à présent, c'est que le CSA prend en compte les sondages. C'est-à-dire que plus le candidat est haut dans les sondages, plus il a le droit de parler. Donc, à l'inverse, il faut aussi le dire à l'inverse, plus t'es bas dans les sondages, moins t'as le droit de faire connaître ton opinion. Donc ça permet pas de changer beaucoup la donne.
Ouais, c'est même clairement antidémocratique.
C'est clairement antidémocratique.
Et ça favorise un peu le bipartisme finalement, parce qu'on en arrive... Ou le tripartisme, pardon. Non, quoique, il y en a un qui a disparu. Ce qui fait que ça favorise les grands candidats, les gros candidats.
Ça favorise complètement les très gros candidats. Les petits candidats sont encore plus écrasés et sont voués à, vraiment à fermer leur gueule en fait.
Mais avec une problématique, c'est que les instituts de sondage, c'est privé.
Mais les instituts de sondage, c'est privé. Et même en fait, la problématique, elle va plus loin. C'est-à-dire qu'il y a tous les débats qu'on a actuellement sur à quel point les sondages influencent sur les résultats. Mais si le CSA lui-même valide le fait que c'est important, c'est intéressant, donc, c'est un vrai serpent qui se prend la queue. Bref, le CSA cautionne complètement ce système-là et ce système du « oui, allons-y, continuons à pousser les gros partis ». Donc, je continue un petit peu dans tout le fonctionnement. Une des modifications, celle-là, elle va presque dans le bon sens. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment une espèce d'étranche horaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on disait il faut que les gens parlent autant, en gros, mais n'importe quand dans la journée. Maintenant, il y a des vraies tranches horaires qui se passent. Il y en a quatre, dont il y en a une qui est de 18h à minuit. Et pour moi, une tranche horaire de 18h à minuit, c'est quand même assez vague. On va pas me faire croire qu'une personne qui parle à 20h juste avant le journal télé ou juste après est aussi écoutée que la personne qui passe à minuit. Mais bon, ça... Voilà. Je regardais un petit peu donc, tout ce principe d'équité donc, pendant cette période intermédiaire et j'étais tombé sur un article des décodeurs, donc c'est Le Monde, j'en avais déjà parlé moi une fois, c'est les fact-checking, qui avait fait une prédiction sur le temps de parole des petits candidats qui, selon eux, allaient être 5 à 10 fois inférieurs. Alors je me suis amusé, grand amusement de l'après-midi.
T'as fait kiff le dimanche, toi.
C'était fou. Le CSA donne toutes les informations, tous les relevés en fait. Alors ils font ça bien, c'est super sympa, c'est cool parce qu'ils font absolument pas ils font absolument pas un truc clair. Il n'y a pas un récapitulatif où t'as juste une ligne à lire en bas et tu sais lui a parlé tant, alors pas du tout. Le CSA se moque de toi complet, te met un vieux fichier Excel et va chercher dedans pour piocher tes résultats. Bref, donc je me suis amusé comme un petit fou, j'ai pris un petit candidat totalement au hasard. Donc je citerai pas les candidats parce que c'est pas là l'intérêt, j'en ai pris un des petits. Voilà. Et j'ai vraiment pris au hasard, parce qu'en fait j'en ai ouvert plein, j'en ai fermé plein, il n'y en avait qu'un seul qui restait, je me suis dit je vais faire sur celui-là. Et je suis allé récupérer. Alors juste pour info, ce petit candidat, il était présent en 2012. J'ai pris un candidat qui était présent en 2012 et en 2017. Ce candidat, comme tous les candidats en 2012, sur son temps de parole intermédiaire, il a pu parler entre, en gros, 24-25 heures. Voilà. Et donc, en utilisant ces magnifiques données, ces magnifiques chiffres, absolument, n'importe comment, je me suis concentré sur les temps de parole. Donc, c'est pas les temps de présence des candidats, parce que c'est aussi indiqué. Il y a le temps de présence des candidats, mais je me suis vraiment dit, non, ce qui m'intéresse, c'est les temps de parole. Donc, ce candidat et soutien, a eu le droit à 9 heures de parole. Voilà, on est passé de 24 heures à 9 heures de parole.
Ça fait quand même une sacrée différence.
Ça fait une sacrée différence. Et je me suis dit, oh là là, c'est quand même fou. Ce candidat, ce parti avait le droit de parler 24 heures. Et là, 9 heures, c'est nul. Et je me suis dit, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de temps de parole libre. Donc, qu'est-ce qui se passe pour un gros candidat? Donc, je suis allé prendre un des top 4 des sondages, et j'ai pris le temps de parole. Et je commence et je regarde juste une ligne comme ça. Je me suis dit, juste sur BFM TV. Ce parti a parlé 14 heures. Donc déjà plus que l'autre candidat qui a eu 8 que 9 heures sur tous les
médias suivis.
Tous les médias. Et je me suis encore amusé à prendre toutes les lignes comme ça pour tous les trucs. Et donc ce candidat, sur cette période-là, a parlé 72 heures. Donc on a un candidat qui a le droit de parler 9 heures et un autre qui a le droit de parler 72 heures.
Et en 2012, la proportion était la même ou pas?
24 heures, 25 heures.
Ah, d'accord.
Voilà. Les gros candidats avaient été un peu favorisés autour des 25h, 26h.
Ah, ça a triplé pour un et divisé par 3 pour l'autre.
Et de ce que je sais, j'ai pas pris le plus gros des candidats, loin de là. Je sais qu'il y en a deux qui sont bien en dessus et qui ont eu un taux de présence qui était juste, mais qui est quasi x2 par rapport à ce que j'ai annoncé. Donc on est sur des autres candidats qui sont à plus de 100, plus de 120 heures, etc. Facile. Donc c'est dramatique, et là on parle encore, on en revient à ce qu'on disait au début un petit peu, c'est vive la démocratie. J'avais pas grand chose d'autre à dire, moi j'étais un peu désabusé par ce constat aussi, en me disant bon bah ok c'est cool. Juste pour finir, qu'est-ce qui se passe en cas de déséquilibre ? C'est-à-dire qu'en gros, quand le CSA dit hey, « Eh, mais fais attention !» Bah oui, le CSA fait hey, « Eh, faites attention !» Voilà.
Et c'est tout.
Et bah en gros, c'est tout, parce que là, il y a un petit peu certains qui disent « Mais moi, j'ai pas parlé autant et tout. » « Oui, mais vous inquiétez pas, ça va se rattraper. » Donc ça, c'était... ça peut pas se rattraper, parce que ça a été fait au moment où après, c'est ce qu'on appelle l'équité. Enfin, voilà, l'autre partie. Mmh. Donc, on peut plus le rattraper. Donc en gros, le CSA a dit « Non, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. » Voilà. Et le CSA peut faire des petites lettres de mise en demeure, des petits trucs comme ça, une petite amende, et en gros, voilà, au pire, si une grande chaîne se fait épingler, le CSA va jamais dire à la chaîne « Non, c'est bon, vous n'avez plus le droit d'émettre. » Mais voilà, bon, bah, payer une petite somme, quoi, qui reste une goutte d'eau dans cet océan capitaliste. Voilà.
Non, en fait, il y a encore un moyen, finalement, de... d'être, enfin, au-delà de l'antidémocratie, c'est aussi un moyen de faire valoir des méthodes démagogiques. C'est-à-dire que, ben voilà, pour gagner du temps d'antenne, pour gagner dans les sondages, on va dire qu'il faut être sympathique, il faut avoir une bonne image. On l'a vu à ces élections-là, c'est celui qui avait le meilleur staff de com qui faisait le plus de chiffres dans les sondages. Et finalement, ben, à partir de là, ce sera lui qui aura le plus de temps de parole. Même s'il s'exprime mal, même s'il dit de la merde, bon, ben, pas de souci. Aucun souci pour transmettre la connerie, aucun souci pour ne plus être démocratique, enfin voilà, et tout ça est cautionné parce que les petites amendes, ça ressemble plus ou moins à des paiements, voire j'ai pas envie d'être trop extrême, mais peut-être une forme de corruption, mais bon après ça, hein, faudrait quand même pas, voilà.
Et je voulais juste aussi en profiter, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé pendant la prépa. Donc ce qu'on a bien vu, c'est que la presse écrite n'est pas du tout liée à cette partie du CSA. Et on sait très bien que la presse écrite est aussi très très influencée, ou très très influençable. Sente aussi. Et influençable, et cherche à pousser ses propres candidats, en fait.
Ouais, mais on a un fantasme, en fait, en France, c'est le fantasme de la télévision neutre. C'est un truc qui est complètement surréaliste, mais en fait, on part du principe que la presse écrite, on sait quelle est à peu près la ligne éditoriale d'un journal, et c'est pas faux, hein, parce que bon, on sait que le Nouvel Obs, il est plutôt centre-gauche, centre-droit, on sait que l'Humanité, vous êtes plutôt très, très à gauche, voilà, le Figaro très à droite, Valeur Actuelle cramoisie, voilà, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que on laisse croire que la télévision, elle, serait neutre, ce qui n'existe pas, en fait, parce que la télévision aussi une ligne éditoriale, enfin, penche pour une tendance, et on le sent bien, quoi. Je veux dire, par exemple, on disait Canal+, c'est la chaîne des bobos de gauche, TF1, c'est la chaîne des beaufs de droite, enfin, c'est ce qu'on entendait souvent, et en fait, on le sait, sauf qu'en fait, le CSA fait comme si la télévision était neutre, ce qui n'est pas vrai. Par exemple, Arte est une chaîne extrêmement européenne, de fait. Quand on regarde Arte, on sait qu'on regarde une chaîne qui est pro-européenne, voilà. Et là, on dit, bah non, elle est neutre, sauf que non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça qui est drôle dans ce système-là, c'est qu'en fait, voilà. Et aux États-Unis, ils sont un peu moins, je trouve.
Ils s'en foutent.
Ouais,
mais je suis allé voir, ils regardent pas les temps de parole.
Ils sont en fait plus, ils sont même plus honnêtes, parce qu'ils disent finalement les médias, les grands networks aux États-Unis, je prenne parti pour un ou une candidate. Donc en fait, les gens savent très bien quand ils regardent une chaîne, en fait, ils regardent la chaîne qui soutient tel candidat. Donc au final, ils disent je vois pas pourquoi on les emmerderait, parce qu'après tout, ils jouent pas la chaîne neutre. Vous voyez, voilà. Bref, tout un exemple. Musique ?
Très bien, musique.
Allons-y.
Je suis qu'un homme ordinaire, mari fidèle et exemplaire. Je vis en couple depuis 10 ans. Je suis le père de 3 enfants. J'ai bonne situation financière, bon métier, un bon salaire, des opportunités d'évolution, des possibilités de promotion. J'aime les week-ends en famille, faire du sport avec les amis, passer le dimanche chez ma mère. Moi je suis qu'un homme ordinaire. Je dis bonjour aux voisins d'à côté, je demande des nouvelles du petit dernier. C'est la moindre des choses, vous savez, quand on habite sur le même palier. J'aide les vieux à traverser, j'en accompagne même au supermarché. Je suis poli et bien élevé, ça devient rare comme qualité. J'ai mes petites faiblesses, mes petites lâchetés. Après tout, personne n'est parfait, me jettera la première pierre. Moi, je suis qu'un homme ordinaire. Il m'arrive bien parfois, mais tout le monde le fait. Alors pourquoi pas moi? Et puis après, il m'arrive bien parfois de me garer sur des places réservées aux handicapés. Mais après tout, les handicapés conduisent très rarement. Et si je me prends un PV, je connais le préfet, il me les fait sauter. Et puis la police ferait mieux de s'occuper de tous les voyous qui traînent dans les quartiers. Parce que je suis pas raciste, mais quand même, les étrangers profitent du système. Y'en a marre d'assister tous ces fainéants qui veulent pas bosser. D'ailleurs je mis mes gosses dans le privé, parce qu'au moins là-bas on les fait trimer. Aujourd'hui faut être le premier, y a pas de place pour les derniers. C'est pas moi qui irai relever un homme blessé ou allongé. Je me mets le pas de ce qui me regarde pas. À chacun sa croix, et c'est mieux comme ça. Quand dans la rue un homme se fait braquer, je baisse les yeux pour pas regarder. Je vois pas pourquoi j'irai l'aider. Bref, peut-être qu'il l'avait cherché. Moi je suis qu'un homme ordinaire. On est des milliards comme ça sur terre. Tant d'une guerre, une dictature, pour révéler au monde notre pourriture. Moi je suis qu'un homme ordinaire, rien qu'un salaud exemplaire. Mais lâcheté et mon indifférence font de moi un bourreau en puissance. Moi je suis qu'un homme ordinaire. On est des milliards comme ça sur terre. Tant d'une guerre, une dictature, pour révéler au monde notre pourriture. Moi je suis qu'un homme ordinaire.
Et vous êtes bien à l'antenne de Radio Canu dans La Causerie. C'est un petit peu une soirée mouvementée ce soir. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Stan ?
On vient d'écouter L'Homme ordinaire de Monsieur Roux.
Eh bien, c'était bien.
Oui.
Voilà. Et là, je m'auto-relance, parce que personne n'est prêt. On ne vous explique pas, il y a des trucs qui se passent en coulisses assez étranges. Donc voilà, et ben, moi je voulais vous parler des camps de concentration en Tchétchénie. Oui, ce n'est pas un sujet joyeux, mais on s'est dit que comme on n'en parlait pas beaucoup dans l'actualité, du fait justement des élections, c'était l'occasion d'en parler sur Radio Canu, et en particulier dans La Causerie. Petit rappel avant toute chose, la Tchétchénie, c'est censé être une république, hein, je vous le rappelle, membre de la Fédération de Russie, et donc soumise au Kremlin en termes fédéral. Elle s'étend sur 15 647 km², et elle est située dans la partie centrale du Caucase nord russe, c'est-à-dire qu'en gros, elle est au-dessus de la Géorgie et à côté du Daghestan, pour ceux qui sont un peu bons en géographie. Voilà. La religion principale au départ de la Tchétchénie, c'est l'islam, mais elle a été aujourd'hui prise sous ce qui s'appelle une forme néo-traditionnelle. Alors je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça comme ça. C'est parce que le président actuel, Ramzan Kadyrov, qui est le fils du défunt président tchétchène et ancien grand moufti suprême, Akhmad Kadyrov, qui a été assassiné en 2004 par un attentat. Attentat d'ailleurs perpétré, on ne sait pas trop par qui, mais bon voilà. Son fils, qui est actuellement président de la République tchétchène depuis le 15 février 2007, il a pris en main la réforme de l'islam du pays, parce qu'il estime que comme il était le fils du grand moufti, lui dit qu'il est le moufti suprême, il met un deuxième suprême, il aime bien les trucs un peu bizarres, Kadyrov, vous verrez. C'est comme son prénom, il a rajouté 24 prénoms derrière son prénom pour rajouter tous les saints de l'islam. C'est un mec très très équilibré, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà. Alors faut savoir qu'avant il était quand même à la tête de la police secrète et de la sécurité du pays et de la garde présidentielle avant de devenir président. Donc on voit que c'est quelqu'un de très très sympathique.
Rien que ça, ouais.
Ouais, voilà. Il a créé une milice de 12 à 34 000 hommes armés à l'époque. Dans la population, donc ils étaient tous en civil, mais ils sont entraînés à tuer sur ordre. Voilà. 34 000 hommes, hein. Vous voyez, sur un État comme la Tchétchénie, ça fait du monde, hein, quand même. En fait, dans les faits, il a été désigné par Vladimir Poutine, hein, qui l'a placé à la tête du pays en en février 2007, et Poutine a demandé au Parlement s'il pouvait accepter cette nomination, et le Parlement, contre la Constitution, a dit oui, ouais, t'as raison, on va faire comme ça. Voilà. Parce que je vous rappelle quand même que de 94 à 2002, il y a eu une guerre d'abord civile en Tchétchénie, et une guerre pour l'indépendance de la Tchétchénie, parce qu'en fait, il y en a qui en avaient un peu marre d'être sous le joug de la Fédération de Russie, cette guerre a fait entre 200 et 400 000 morts, hein, on n'a toujours pas les chiffres officiels, pour information, et donc en fait, à l'issue, le pouvoir russe a repris la main en Tchétchénie complètement, et c'est allé même plus loin que ça, parce qu'ils ont déporté, on estime qu'il y a eu au moins 250 000 personnes déportées au sein de la Russie, déplacées dans la Fédération de Russie. Un vieux truc que Staline pratiquait déjà très bien. Et donc voilà. Et donc Kadyrov, il est arrivé à la tête, arrivé au pouvoir, et lui, il dit qu'il voit des complots partout. Parce que bon, c'est un petit peu un pote à Poutine, et c'est aussi un pote au nouveau américain. Là. Vous savez, le mec avec les cheveux jaunes. Trump, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, lui, il voit des complots partout. Si l'économie, elle décolle pas, c'est à cause de la Géorgie qui lui vole tout. Bon, on ne comprend toujours pas trop pourquoi. Si le système de santé il n'arrive pas à aider tout le monde, c'est que Dieu a abandonné la région du fait d'une population trop occidentalisée et impie. Non, tout ça, c'est ses propos. Hein. Si la Tchétchénie n'est pas assez connue dans le monde, c'est parce que les USA auraient demandé que le nom du pays soit rayé des cartes. Oui, voilà, monsieur va bien. Voilà. Donc c'est un régime totalement autocratique, tenu par un fou, il n'y a pas d'autre mot. Il est connu pour être en prime un illuminé religieux. D'ailleurs, plusieurs de ses proches conseillers affirment qu'il aurait affirmé, lui, Kadyrov, donc être en lien direct avec Mahomet régulièrement pour diriger la Tchétchénie. Voilà. Il sert bien Moscou, du coup. Enfin, le Kremlin, plutôt, parce que voilà. Alors, comme dans la région, ça ne s'améliore pas, c'est surtout lié à deux choses. En fait, c'est lié au fait que la Russie pille les réserves de la Tchétchénie, parce qu'il y a quelques ressources en Tchétchénie qui sont intéressantes pour la Russie, métaux rares, un petit peu de gaz, des choses comme ça, mais elle ne paye pas. Donc, parce qu'elle dit, c'est au sein de ma fédération, donc j'ai pas de raison. Sauf qu'en fait, elle ne répartit pas l'argent. C'est un peu ça qui est dommage. Et donc, du coup, le Kremlin a demandé à Kadyrov de tenir la Tchétchénie. Et quoi de mieux pour tenir un État que de fanatiser religieusement un État, tout en ajoutant un grand coup d'ordre moral et en serrant la vis du côté de la sûreté. Voilà. Depuis une dizaine d'années, il y a une multiplication de lois de décision pour redonner de la morale à son pays. Ça, c'est Kadyrov qui parle dans le texte, encore une fois. Donc, on imagine assez vite ce qu'il peut mettre derrière tout cela. Donc ça va de faire régresser bien sûr les droits des femmes. Hein. Je vous rappelle qu'il a détruit tout accès aux moyens de contraception en Tchétchénie. Ça depuis 10 ans, et du contrôle du corps et de contrôle de son corps, vu qu'il a interdit l'avortement aussi, accessoirement. Hein. Il a aussi remis en place une loi locale qui permet la polygamie, mais uniquement masculine. Voilà. Il a dit que c'était dans le respect de la tradition de la Tchétchénie, puis du prophète et de la Tchétchénie. Enfin, c'est un truc qui, voilà. Il a normalisé et renforcé les liens entre l'islam tchétchène et l'orthodoxie russe. Ça, c'est par contre le grand coup qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il est allé chercher les branches les plus extrêmes de l'islamisme tchétchène et il est allé chercher les branches les plus extrêmes de l'orthodoxie russe. Et en fait, il les a mis autour d'une table. Il a dit, chouette, on fait un pays cool. Voilà. Et ça a marché. C'est pas terrible. Il vomit la laïcité, il déteste ça, il vomit toutes les valeurs qu'il appelle valeurs occidentales, hein, bien sûr, évidemment. Donc on voit quand même que depuis des années, il resserre la vis pour mieux tenir son peuple, c'est ce qu'on lui demande. La peur règne en Tchétchénie, il y a des enlèvements ciblés qui ont lieu très régulièrement. Des camps de torture existent, on le sait, depuis des années. Il y a une police secrète qui a été mise en place, donc c'est celle dont je vous parlais, qui a été renforcée depuis. Et en plus, il y a le FSB russe qui est sur place aussi pour éviter tout débordement. Parce que c'est pour protéger la frontière, vu que c'est à la frontière de la Géorgie, vous voyez.
Ah bah là, ils sont bien, bien protégés. Voilà.
On sent que vivre en Tchétchénie, c'est un grand défi, hein, quand même, faut pas se mentir.
C'est un paradis de liberté.
Donc Kadyrov, en fait, quand il y a eu la nouvelle loi anti-homosexuelle russe, hein, c'est, pardon, contre la propagande homosexuelle, hein, votée à l'initiative d'une femme très orthodoxe, dont je ne citerai pas le nom, qui interdit toute propagande homosexuelle sur le sol de la Fédération de Russie. Alors, je vous rappelle que ça va de se tenir de la main dans la rue, quand on est du même sexe à réclamer des droits pour les LGBTIQ. Hein. Donc cette loi en fait interdit tout ça. Voilà. Dès la promulgation de cette loi, Kadyrov il a dit ouais, trop cool, j'ai une bonne idée, je vais lancer ma population à la chasse aux homosexuels. Oui, parce que c'était pas encore Pâques et que les œufs de Pâques étaient pas prêts, donc il s'est dit on va plutôt chasser les homos. Excusez pour cette blague, mais voilà. Le souci, c'est que depuis 2007, lui, il est dictateur et il affirme qu'il n'y a pas d'homosexualité en Tchétchénie. Compliqué d'envoyer les gens chasser ce qui n'existe pas. Alors du coup, il a commencé à essayer de broder un complot, parce que là aussi, vous savez, quand vous faites prendre la main dans le sac, il a brodé un joli complot. Il a dit, eh ben en fait, tous les homosexuels qu'on va trouver en Tchétchénie, ce sont des agents de l'étranger. Et oui, évidemment, je veux dire, voilà. Donc en fait, ils sont là pour détruire la pureté de la foi des Tchétchènes, triomphant. Voilà, c'était ces mots. Il va bien, Kadyrov, on sent que c'est un mec très très équilibré. Donc, bah, face à la contradiction quand même, il a quand même décidé un tout petit truc, c'est qu'il fallait mettre hors d'état de nuire, du coup, les agents de l'étranger. Donc les homosexuels sont devenus tous des agents de l'étranger. Alors au départ, il ne visait que les homosexuels hommes, d'après lui. Mais attention, parce que les gens qui ont l'impression que du coup les lesbiennes seraient laissées de côté, je vais juste leur rappeler quelque chose, c'est que plusieurs rapports affirment qu'en Tchétchénie, depuis maintenant une vingtaine d'années, hein, donc ça date d'il y a très longtemps, les femmes lesbiennes sont systématiquement mariées de force, violées ou tuées. Voilà. Donc,
je trouve que c'est un traitement tellement humain.
Voilà, on sent le grand humaniste derrière. Donc tout ça, on le sait grâce à un journal russe qui s'appelle Novia Gazeta, qui est un billet hebdomadaire indépendant, qui est classé à l'opposition, que Poutine cherche à faire interdire depuis maintenant une quinzaine d'années.
Pendant combien de temps il va encore être là ?
Eh ben, ils ont la chance, on ne sait pas comment, mais ils arrivent bien à se débrouiller pour être publiés et exister, mais franchement, ils ont du courage. Donc eux, ils ont pour créneau de dénoncer les atteintes aux droits fondamentaux de l'humain, et en particulier contre les LGBTIQ. C'est eux aussi qui avaient soutenu les Pussy Riot, pour, voilà.
Et c'est ce journal qui fait pas mal de boulot aussi autour justement de la Tchétchénie et des violations des droits humains en Tchétchénie. Et est-ce que, vite fait, c'est Anna Politkovskaya, la journaliste qui a été assassinée, travaillait pour ce journal?
Elle travaillait pour le journal. Par contre, c'est pas sur la Tchétchénie qu'elle travaillait.
Oui, mais je crois que c'est pas la seule journaliste de ce journal à s'être fait descendre.
Non, j'allais en parler, c'est justement, depuis 2000, ils ont 6 journalistes qui ont été assassinés. Mmh. Et 12 qui ont disparu. Voilà. Alors, ont disparu, soit ils ont été planqués à l'étranger, soit ils ont vraiment disparu dans des prisons, mais voilà.
Il y a du recrutement à faire.
Oui, c'est ça. Non, mais ce qui est terrible, c'est surtout de voir qu'ils continuent. Ce qui est génial plutôt, c'est de voir qu'ils continuent malgré les pressions. Alors, à noter que le journal reçoit depuis cet article des menaces claires, appelant à la mort de journalistes et à brûler les locaux du journal. La journaliste, celle qui a sorti l'article, qui affirme qu'un appel au djihad par le feu et le sang a été lancé contre le journal. Elle en a la preuve, hein, elle a les lettres et les mails qui ont été envoyés. Et elle dit que la situation lui rappelle quand même grandement Charlie Hebdo, hein, parce qu'elle dit que c'est quand même un exemple qui peut parler, et que tous les journalistes du journal sont en danger de mort, et une bonne vingtaine aujourd'hui sont partis à l'étranger, et d'autres sont déjà revenus, mais ils ont dû s'exiler un temps pour pouvoir survivre, hein, tout simplement. Et donc elle a donné une interview au Washington Post qui a permis à Kadyrov de dire que ça prouvait que c'était une agent de l'étranger. Évidemment, quand tu parlais dans un journal américain, c'est que tu as d'agent de l'étranger. Voilà. En fait, ce qui est terrible, c'est que le pouvoir tchétchène, pour pas que ça se voie, il a fait construire des bâtiments, retaper des bâtiments qui existaient mais qui ne servaient pas de camps de concentration. Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'en fait, il savait que les camps existants étaient surveillés en fait par l'étranger, c'est-à-dire, mais ça c'est vrai, c'est par l'Union Européenne, par les USA, qui essayent d'avoir des informations sur ces camps. Donc du coup, pour ces camps spécifiques pour les homosexuels, il les a fait faire en fait dans des bâtiments qui sous couvert de refaire des écoles. Vous voyez, c'est un petit peu cynique, mais voilà. Donc la police, épaulée par la police secrète, a procédé à des centaines d'arrestations dans tout le pays, enfermé dans des camps des centaines, certains parlent de milliers de personnes, vues comme homosexuelles ou transsexuelles. Et il semble que, encore une fois, Kadyrov dit « les lesbiennes n'existent plus sur mon sol ». Vous voyez, je vous renvoie à ce qui se passe depuis une vingtaine d'années. Voilà. Déjà, il disait que les homosexuels n'existaient pas. Vous voyez, c'est un homme charmant. Dans ces camps, le programme est clair. Les gens sont emprisonnés, torturés, forcés à dénoncer d'autres homosexuels, contraints de promettre qu'ils quitteront le territoire ou tout simplement battus à mort. Ça, tout ça, c'est issu des témoignages des gens qui ont pu ou s'enfuir ou qui ont pu sortir des camps et qui ont accepté de témoigner. Et on estime, alors là c'est en croisant les témoignages des survivants des camps, que plusieurs centaines de personnes sont mortes depuis que ces camps existent. Voilà. Alors il faut noter qu'on en entend parler aujourd'hui. Par contre, certains disent que ces camps existent depuis une dizaine d'années. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Parce que les gens ont l'impression que ça vient d'apparaître. En fait, non, ce qui vient d'apparaître, c'est qu'on ait fait un article dessus. Mais cet état de fait existe depuis longtemps. Le climat de peur dure depuis des années, pour les homosexuels dans la région, évidemment. Plusieurs ONG, dont Amnesty International, rappellent qu'ils doivent depuis des années se cacher, quitter la République. Le problème, c'est que les gens craignent de témoigner, car ils mettent leur vie et celle de leur famille en danger. Donc, c'est pour ça, en fait, que même quand les gens fuient, ils hésitent à dire ce qui se passe, parce que la police secrète est tellement puissante en Tchétchénie qu'ils ont peur qu'en fait, on s'en prenne à leur famille. C'est des situations qu'on peut retrouver dans d'autres États, mais voilà. À noter que pour le pouvoir en place, tout soutien aux homosexuels, mais même juste de dire, par exemple, qu'il est injuste de les persécuter, est vu comme tombant le coup sous la loi contre la propagande homosexuelle. Donc c'est-à-dire qu'il se sert de la loi fédérale pour appuyer ces exactions. Et donc ça vous rend passible de la même faute que les homosexuels eux-mêmes. Donc vous allez être mis en camp et vous risquez les mêmes choses que ce que j'ai décrit au-dessus. Du coup, la population, ben, évidemment, elle est terrorisée et personne n'ose réellement ni témoigner, ni parler, ni s'opposer. À savoir que toute manifestation est interdite en Tchétchénie depuis 2011. Donc au moins, ça résout un peu le problème. Du fait de l'état d'urgence.
C'est une bonne façon de faire taire les gens, ça, l'état d'urgence.
Ça marche partout. Le président Kadyrov, il a pris la parole suite à l'article, hein, quand même, parce qu'il s'est dit, là, quand même, on m'a montré du doigt. Donc il a été interrogé sur l'arrestation de centaines d'homosexuels. Et du coup, un de ses porte-paroles a balayé des accusations qu'il juge mensongères. Bah, tout simplement parce qu'il rappelle une nouvelle fois qu'il n'existe pas d'homosexuels en Tchétchénie, donc il ne peut pas exister de camp dédié aux homosexuels. Voilà. Et il rajoute même que si tel était le cas, donc s'il y avait des homosexuels en Tchétchénie, leurs parents les auraient déjà envoyés là d'où ils ne reviendraient jamais. Autrement dit, les auraient tués. Voilà, et on sent que le climat est très sain, hein, voilà. On est donc en 2017, un homme pratique les mêmes choses que les nazis. Parce que pour être très clair, c'est tout à fait comparable cette fois-là. C'est pas pour faire un point Godwin, hein, on est vraiment dans la déportation de masse de personnes pour une orientation sexuelle supposée ou réelle, voilà. Et en fait, le problème, c'est que ça soulève pas vraiment d'indignation au niveau international, on le sent bien. Dans la campagne présidentielle actuelle, on a vu plusieurs associations LGBTIQ et aussi la société civile et des militants ont interpellé les hommes politiques qui faisaient campagne pour leur dire il faudrait quand même dire quelque chose. Et on a bien senti quand même que on condamnait mais du bout des lèvres. Hein, on n'y allait pas trop fort parce qu'il faudrait quand même pas se fâcher avec la Russie. Hein, donc c'est quand même un petit peu cynique. Je rappelle que le seul pays européen qui aujourd'hui a réellement protesté, c'est l'Allemagne. Et pourtant l'Allemagne est dépendante du gaz russe. Donc comme quoi on peut quand même à un moment donné aussi mettre en avant certains principes. Hein, on n'est pas obligé de toujours se planquer. Voilà. En France, il y a eu plusieurs rassemblements. D'ailleurs, je voulais signaler celui de Lyon, qui a lieu vendredi soir, qui a regroupé entre 350 et 500 personnes, selon les chiffres. Enfin, selon d'où viennent les chiffres, voilà. On peut faire mieux, ça c'est clair, mais au moins ce qui est intéressant, c'est de voir que la société civile, ben, elle ne laisse pas passer ça sans essayer de le visibiliser, et c'est important d'en parler, c'est ce que j'essaye de faire ce soir avec vous, pour essayer de montrer que ce sujet soit en dehors des sphères militantes, c'est-à-dire qu'ils sortent des sphères militantes et que les gens se disent « ça, c'est pas normal, tout simplement ».
Et puis il s'agit d'un crime contre l'humanité. Enfin,
oui, clairement. Enfin, c'est, je sais pas si...
Législativement, c'est un crime contre l'humanité, ne serait-ce que la déportation.
Oui.
Donc, bon.
Bah, on est d'accord, mais c'est surtout... je suis d'accord avec toi, mais c'est surtout qu'on se rend compte que, bah, du coup, le seul qui peut dire ça, c'est l'ONU, et que pour l'instant, personne n'en parle à l'ONU. Donc voilà. L'urgence, c'est donc de protéger les LGBTIQ tchétchènes, mais pas que, enfin toutes les personnes qui sont dans le monde, qui sont menacées du fait de leur orientation sexuelle ou de genre. Et le seul moyen, c'est d'offrir l'asile politique et d'arrêter un petit peu de tourner autour du pot et de chercher des raisons de ne pas leur donner, parce que c'est là qu'on en est en France quand même. Je prends l'exemple de la France, mais en Europe en général. On va noter quand même dans le monde que c'est le retour de la réaction, c'est pas propre à la Tchétchénie. On signale par exemple l'arrestation de 30 personnes en Iran cette semaine dans une fête parce qu'ils auraient été dénoncés comme étant homosexuels. Ils risquent tous les 30 la peine de mort, hein, pour information. On va aussi parler de la Tunisie où on continue à pratiquer des tests anneaux. On peut parler aussi de la France où on voit remonter la haine homophobe avec ces élections et que le nombre d'agressions homophobes a triplé ce dernier trimestre. On voit les USA avec Donald Trump qui s'en prend aux droits des femmes mais au droit des homosexuels. Donc la vague brune, elle est un petit peu partout, elle n'est pas qu'en Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est un petit peu le haut de l'iceberg, donc il ne faudrait pas non plus dire qu'il n'y a que la Tchétchénie qui va mal, mais il faut parler de la Tchétchénie, c'est important. Donc voilà, pour moi, plus que jamais, c'est une lutte internationale que l'on doit mener à l'international et pas à hauteur des frontières. Et surtout, c'est un universel dans le sens où on a le droit de vivre libre, quelle que soit notre sexualité ou notre orientation de genre, et qu'il faut arrêter de mettre sur le dos de particularisme culturel le fait que ce soit moins facile ailleurs ou que ce soit, ça prenne plus de temps. Non. Quand on en est là, on légitime ce que fait M. Kadyrov parce qu'on estime qu'il peut dire que chez lui, il n'y a pas d'homosexuel parce que ce n'est pas dans la tradition tchétchène. Donc, je vais le dire clairement, j'emmerde les traditions.
Et puis forcément, si on tue tout le monde, il n'y a plus personne.
C'est ça. Mais on est face à une épuration, hein, clairement. Mmh. Voilà.
Quoi dire après ça ? Que ça fait gerber, qu'effectivement, c'est le retour de la réaction et que la réaction revienne, c'est un fait ou c'est un problème aussi. Le gros problème que moi je vois, c'est où sont les progressistes. Je veux dire, même vendredi, on était 500. Enfin, mais 500 déjà, je pense que c'est un gros chiffre par rapport à combien on était réellement. Et puis, enfin, pour quelle chose, quoi. Enfin, je veux dire, le mouvement militant, il est aussi gangréné par le côté parti proche du PS, etc. Est-ce que quand on est aussi proche des partis en France, est-ce qu'on peut se permettre de critiquer ce qui se passe à l'international? Est-ce qu'on est totalement indépendant dans notre manière d'agir et dans notre capacité de réaction et de dénonciation? Enfin, je pense qu'il faut aussi qu'on se remette vachement en question, en fait, les progressistes, quoi. Et qu'on arrête, effectivement, avec ce différentialisme que tant aiment tellement à gauche, surtout qu'à droite, ils soient différentialistes, c'est leur base. Ça me dérange pas, c'est logique. Par contre, que chez les progressistes, on soit dans du différentialisme culturel, bah, quand on ressemble aux fachos, à un moment donné, c'est qu'on se plante. Hein.
Et je vais quand même dire que l'urgence, mais là je le dis parce que c'est vraiment de libérer les visas. C'est-à-dire que là, on estime aujourd'hui, c'est pas mes chiffres, c'est Human Rights Watch hein, qui les donne, qu'il y a à peu près 700 personnes qui demandent des visas d'asile politique. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, ah bah oui, mais non, parce qu'ils sont russes, alors avec la Russie, on n'a pas de problème. Non, ils sont pas russes, ils sont tchétchènes. On connaît ce qui se passe en Tchétchénie. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils viennent d'une région très particulière de la Russie. C'est un petit peu bizarre de dire, voilà. Et que même s'ils étaient russes, vu les lois qu'il y a actuellement sur le territoire russe, on ne peut pas dire que c'est un état safe pour les gens, voilà, comme on entend. Donc voilà, c'est pour ça, c'est une urgence absolue de libérer les visas et de laisser ces gens pouvoir survivre simplement, parce qu'on ne peut pas parler de vivre quand on est obligé de fuir chez soi. Mmh. Voilà.
On écoute de la musique ? Allons-y.
Allez.
Même parfois avant, on a droit au grand carnaval. Au carnaval de la magouille, au grand défilé des embrouilles. C'est tellement bien.
socialiste, gaffe au social, au communiste. C'est là qu'est le plus grand danger pour notre vieux pays traumatisé. Zizi. Magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille blues. Moi pour vous dire la vérité, je suis plutôt pour le danger. La seule chose qui m'inquiète, c'est le mec qui se trouve à leur tête. Car plusieurs fois par le passé, il a sa veste.
C'était donc François Béranger avec Magouille Blues, une chanson dans l'air du temps, même si on pourrait remplacer tous les 7 ans par tous les 5 ans.
C'est ça. Elle est un peu vieille la chanson, c'est pour ça.
Voilà, mais comme quoi c'est pas nouveau l'arnaque politique. Hein.
Alors là, on va passer à une interview que tu as faite, Jean-Yves.
Tout à fait.
Et voilà, il vient de revenir
si
dans le
si
studio.
Si vous saviez ce qui se passe, c'est complètement
terrible.
Tout à fait. Oui, c'est une interview que j'ai fait, une courte interview de Nejib Sidi Moussa, qui est l'auteur du livre La Fabrique du Musulman ou la confessionnalisation et la racialisation de la question sociale aux éditions Libertalia, que j'avais présenté ici. C'était dans la 189e causerie. Et donc, c'était cette interview, je l'ai faite à l'occasion de la venue de Nejib à la librairie La Griffe. C'était le samedi 1er avril. Je m'excuse d'avance, le son est dégueulasse, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, c'est audible, mais ne vous attendez pas à un reportage France Culture.
On a eu juste un petit problème d'enregistreur, on peut le dire,
voilà.
C'est pour ça que ça fait ce bruit très bizarre.
Mais ouais. Logiquement, vous devriez recevoir, ou en tout cas entendre la majorité des réponses de Nejib, et en partie mes questions. Voilà, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve aujourd'hui à La Griffe après une présentation de Nejib Sidi Moussa qui nous parlait du livre La Fabrique du Musulman ou la confessionnalisation et la racialisation de la question sociale. Et c'est l'occasion de le rencontrer et puis d'échanger deux, trois petits mots. Déjà, bonjour Nejib. Alors, peut-être une petite première question autour du livre, en fait, c'est comment t'es venu cette envie ou ce besoin, je sais pas justement, c'est toi qui me diras, d'écrire justement ton livre.
Oui, en fait, le livre, il part d'une discussion que j'ai eue avec un ancien camarade, Et de fil en aiguille, ça a débouché sur un plan, sur le bouquin qui est diffusé depuis maintenant quelques semaines. Et le propos, il est assez simple. Il part d'un constat, c'est comment est-ce que, du point de vue de la gauche dans le milieu révolutionnaire, eh bien, on assistait à une diffusion de nouvelles théories, de nouveaux termes comme racisé, blanc, comme de nouvelles pratiques qui sont légitimées, comme des assemblées non mixtes sur des bases raciales avec des guillemets. Donc, le livre, il évoque ces questions-là à travers la question de la fabrique du musulman, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a créé, comment est-ce que des racistes, des antiracistes, des gens qui ont des agendas extrêmement différents, qui n'ont pas le même programme politique, j'insiste là-dessus, eux, par leurs actions, par leurs termes, par les tracts qu'ils rédigent, les livres qu'ils diffusent, eh bien, professionnalisent la question sociale, assignent des personnes, indépendamment de leurs croyances réelles ou supposées, à un statut qui serait celui du musulman avec un M majuscule. Voilà. Donc, en revenant sur les débats, sur les discussions, sur les tensions dans le milieu de la gauche durant les 15 dernières années, donc j'ai très modestement essayé de faire un petit historique, un petit bilan sur où on en est aujourd'hui.
Et que justement, il y a aussi cette notion, c'est que cette professionnalisation, cette racialisation de cette chose, de la question sociale, elle se fait au détriment aussi de la lutte des classes, qui finalement apparaît très rarement dans certains propos, dans certains trucs, je vais pas les citer, mais d'opposants qui finalement, lui, nous parle de race sociale, de race ceci et cela, et en fait, on n'entend jamais parler de guerre de classe, de lutte de classe, en fait, et que, toi, ce que tu développes un peu, c'est que c'est aussi quelque chose qui peut être porté par une bourgeoisie identitaire, en fait, finalement.
Oui, ouais, bien sûr. C'est un peu ce dont on discutait tout à l'heure pendant la présentation. Ce qu'il faut bien comprendre, pour pas se laisser enfumer par tous ces discours identitaires, par toutes ces nouvelles modes théoriques, ces nouvelles expressions, c'est de revenir quel est le programme qui est défendu, quelles sont les pratiques qui sont promues aussi, puisque de fait, quand on s'intéresse vraiment à ce qui est dit, à ce qui est écrit, c'est pourquoi il faut aussi lire ce qui est publié, eh bien on se rend compte que la question de la lutte des classes, c'est pas au centre de leur analyse, voire ça fait pas partie du tout de leur analyse. Et donc on substitue à cette conflictualité sociale, puisque on se rend compte dans la vie de tous les jours qu'il y a de la conflictualité sociale. Hein, notre vie elle n'est pas faite que d'un consensus on baigne pas dans un climat de paix, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, certaines personnes ont essayé de changer de grille de lecture, ont essayé de changer de lunettes. Donc, à la place de la lutte des classes qui est dépassée, hein, c'est bien connu maintenant que l'URSS n'existe plus et que le Parti communiste a fait je ne sais pas combien de pourcents aux élections, eh bien voilà, on peut mettre ça de côté, on renvoie ça aux archives. Donc on essaie de trouver une nouvelle grille de lecture qui serait celle de la lutte des races sociales. Ou alors celle de la lutte entre les racisés, les non-racisés, entre les blancs et les non-blancs, les blancs qui auraient un privilège de par leur statut, de par leur couleur de peau, au détriment des autres. Et ça serait donc une nouvelle manière de voir les choses. Et en quoi c'est confus ou potentiellement dangereux, c'est qu'on ne se rend pas compte, en tout cas certains de nos amis, de nos camarades, hein, avec qui on va se battre contre les violences policières ou contre l'exploitation capitaliste ou autre, eh bien ils ne vont pas se rendre compte que ces questions-là, elles sont portées par une petite bourgeoisie ou par une bourgeoisie intellectuelle ou pas d'ailleurs, et qui cherche à trouver des nouvelles causes pour défendre ses intérêts. Hein. Donc on va parler au nom de communautés qui seraient plus ou moins homogènes, et donc où le bourgeois racisé aurait les mêmes intérêts que le prolétaire racisé. Ça, c'est quand même assez gênant, en fait.
Et le racisé est entre guillemets, je crois. Alors, on va pas refaire, parce qu'on a, enfin, j'ai parlé longuement de ton livre dans la causerie, et pas que dans la causerie, mais c'est pas pour ça que je me dis. Non, mais c'est plus après aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est les retours. Alors, pour recontextualiser un petit peu, t'as venu sur Lyon, à la Griffe, avec un média qui était censé l'annoncer a été très très compliqué, un peu ouais très compliqué dirons-nous, et que c'est pas le seul endroit. Enfin, sur, tu disais sur Paris, ça a aussi été un peu même pas qu'un peu, ça a été censuré aussi par certains sites. Et en fait, au-delà des sites internet, la réalité de tes présentations, ça se passe comment? Enfin, est-ce que t'as de la confrontation vraiment violente, aussi violente que celle qui peut être virtuelle, ou absolument pas?
Absolument pas. En fait, ça s'est un peu passé comme aujourd'hui à Lyon, quand j'ai présenté mon bouquin à Paris et à Bagnolet. De fait, et je le regrette, hein, sincèrement, il n'y a pas eu de véritable confrontation. Alors il y a eu un débat, parce que même quand on pense être d'accord sur plein de choses, il est tout à fait normal qu'il y ait des sensibilités différentes. On est tous issus de mouvements, de groupes, de traditions politiques différentes, et c'est très sain justement, c'est ça la vitalité, la richesse du mouvement ouvrier révolutionnaire. Donc il y a eu des débats, il y a eu des discussions passionnantes, où des gens ont fait part de leurs expériences, de luttes concrètes, où on a aussi établi le fait que certains groupes qui sont cooptés par la gauche de la gauche, intellectuelle ou militante, n'avaient aucune véritable assise sociale ou populaire. Et s'ils pouvaient être très virulents sur Internet à travers des posts, des commentaires qui peuvent être plus ou moins infamants, eh bien, dans la réalité, ils pèsent pas lourd. Donc, en un sens, c'est rassurant. Mais je pense que ça n'empêche pas le débat de se poursuivre. C'est pourquoi il y aura d'autres étapes, hein, dans la petite tournée française. Mais je pense qu'il y a une vraie bataille politique à mener aujourd'hui. Et je pense qu'on est à peu près tous d'accord à chaque fois qu'on a échangé, donc notamment cet après-midi. Il y a une bataille sur les mots, parce que apparemment les mots sont importants. Je dirais même que les mots sont très très importants. Et ils sont utilisés à mauvais escient pour alimenter un climat de grande confusion. Un des mots en fait qui cristallise toutes les attentions et les passions, hein, au-delà de l'islam et du musulman, c'est aussi la question de l'islamophobie et de la lutte contre l'islamophobie, qui, selon qu'elle soit définie d'une manière ou d'une autre, ne signifie pas du tout la même chose. Donc je pense que la première des choses aujourd'hui, et c'est ce que plein d'amis, plein de camarades, plein de nouveaux amis ou plein de nouveaux camarades sont en train de faire en ce moment, c'est voilà de quoi on parle aujourd'hui, on parle de quoi, et donc de reposer les cadres du débat d'une manière sincère, apaisée, de manière honnête aussi. Donc tu sais, il y a eu quelques réactions très très négatives, mais très rares en réalité, parce que pour l'instant j'ai plutôt eu des réactions plutôt positives concernant ce bouquin. Eh bien, les réactions très négatives qui ont eu lieu, en fait, ont été produites par des gens qui n'ont pas lu le livre, ou qui ne l'ont pas lu authentiquement. Donc, c'est tant pis pour eux, parce qu'ils se décrédibilisent. Ils décrédibilisent l'organisation qui les soutient, ou les journaux qui les diffusent, ou les sites qui les diffusent. Donc, c'est tant pis pour eux, je veux dire. Mais, moi, pour ma part, et avec d'autres camarades et d'autres amis, je pense qu'on va continuer cette bataille-là. Et qui n'est pas une bataille spécialisée, c'est-à-dire aujourd'hui on se bat contre quoi? On se bat contre le capitalisme, contre l'État, on se bat contre l'emprise des religions, on se bat contre la vague réactionnaire et identitaire, ou alors on se bat contre autre chose.
Eh ben, je crois que tu as posé des questions à chacun, à chacune d'y répondre, d'y réfléchir en tout cas, et puis ben effectivement de continuer à déjà s'interroger. Je crois que c'est vraiment une des clés, enfin tu l'as bien, enfin tout ce qui se passe autour de ta venue, je trouve que ça manque beaucoup, quoi. C'est qu'on a déjà peur du débat, et je crois que justement ce que t'appelles toi, c'est bah justement à reposer des bases, à se réinterroger sur le sens des mots, etc. Donc voilà, je sais pas si t'avais encore un mot à rajouter, ou pas.
Ouais, non, mais je remercie, je remercie Radio Canu, etc., je remercie La Griffe, je remercie tous les lieux alternatifs, les médias révolutionnaires et libertaires qui parlent du livre et qui en fait ont déjà initié ce débat. Ce débat, c'est pas moi qui l'ai initié, c'est pas ce livre qui est très modeste. D'autres groupes l'ont fait à leur manière. Ils en ont parfois payé le prix, que ce soit par des débris de vitrines ou alors des saccages de locaux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut clarifier les choses, tout simplement, en discuter. On a le droit de pas être d'accord. Mais calomnier ou s'en prendre à des locaux alternatifs ou autres, je pense que c'est pas la meilleure méthode. Donc, si on a confiance en soi, si on sait quelle perspective émancipatrice et révolutionnaire on défend, ben on va pas avoir peur de la confrontation sur le plan des idées. Après, on verra ce qui se passera. Voilà, faut rester optimiste.
Eh ben, merci beaucoup et puis à bientôt.
À bientôt, merci.
Et on est de retour, en tout cas vous êtes de retour, et nous aussi en fait. Donc nous sommes bien de retour à l'antenne de Radio Canut, c'est toujours le direct et c'est toujours la causerie après 23h et quelques petites brouettes. On vient de s'écouter Ostra avec le titre We Are Alive. Et on va se quitter, j'allais dire on va se terminer, par quelques brèves. Tu veux peut-être.
Eh bien, on commence avec lundi, comme tous les lundis, à 18h30, permanence juridique de soutien aux sans-papiers à la Lutine, 91 rue Montesquieu, dans le 7e, 18h30, lundi.
Et samedi 29 avril, la bande noire, alors ça se passe à la librairie La Griffe, hein. C'était en 1882-1885, alors c'est une rencontre débat à La Griffe autour de la bande noire, c'était la propagande à l'époque par le fait dans les bassins miniers, et c'est avec l'auteur Yves Meunier qui a écrit donc un livre sur cette bande noire.
De Monceau-les-Mines.
De Monceau-les-Mines. Voilà.
15h, La Griffe.
C'est ça. 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e arrondissement.
La semaine prochaine ?
Bah, semaine prochaine. C'est dimanche 30 avril, on sera. Et c'est donc la causerie. Et ouais, en fait, l'autopromo à mort en ce moment. On recevra, en fait, c'est juste surtout pour vous dire qu'on recevra GAMS, qui est. Alors. Qui est une association en fait qui lutte contre les mutilations sexuelles. On en avait déjà parlé, excision, etc., etc. Toutes ces horreurs patriarcales. Et donc ce sera la semaine prochaine.
Oui.
Et on voulait quand même souligner avant de se quitter que ce soir, eh ben c'était la 200e causerie.
Eh oui. Voilà. Et
ça c'est beau.
Oui, hein, ouais. C'est joli.
Pour rappel, on pensait en faire 20 au départ. Voilà.
Tu peux avoir d'idées, t'avais dit.
Tu peux avoir d'idées. C'est ça. Donc on est content d'être encore là et on espère être encore là bien longtemps.
Oui.
Et comme d'hab, on est à la bourre. Mais cette fois, on va vous quitter avec les bandes continues parce qu'il faut qu'on rentre chez nous. On est désolé, mais là, il va falloir qu'on y aille. Et c'est vraiment pas pour aller voir la télé, tout ça, c'est parce qu'il y en a qui se lèvent demain. Alors, on vous fait plein des bisous et on vous laisse avec les bandes continues.
Tout
voilà.
À fait. Et à la semaine prochaine, alors.
Et bonne nuit.
Et à bientôt.
Ou pas. Ou
à bientôt.
Voilà, à bientôt. Ça marche.
Des gros bisous et une belle semaine.
Oui.
Ciao.
Ciao.